Vous êtes sur RTL.
La revue de presse, tout de suite, avec Amandine Bégaud.
Il faut juste que je la retrouve, je vous prie de m'excuser, puisque j'ai évidemment mélangé mes feuilles.
C'est pas grave, vous inquiétez pas. Ce matin, je vous parle des confidences de Salah Abdeslam. Vous allez voir, c'est à la fois glaçant, déconcertant, extrêmement choquant, hein, même par moments. Mais ça éclaire aussi beaucoup sur la personnalité de celui qui est, je le rappelle, l'unique survivant des commandos du 13 novembre 2015. Et c'est pour ça, ce matin, que j'ai choisi de vous en parler. Salah Abdeslam, c'est lui, on le rappelle, hein, qui était parvenu à fuir vers la Belgique au lendemain de l'attaque du Bataclan. Il sera finalement interpellé 4 mois plus tard devant les enquêteurs et les juges. Il n'a quasiment jamais rien voulu dire, pas ou très peu de détails. Il est même resté mutique lors des derniers interrogatoires. Avec ses co-détenus, en revanche, vous allez voir, c'est une toute autre histoire. Le Parisien, aujourd'hui en France, publie en effet ce matin une série de discussions qu'Abdeslam a eues avec ses co-détenus depuis la prison de Bruges. Nous sommes alors au printemps 2016. Et Abdeslam a pour voisin de cellule, écoutez bien, Mehdi Nemouche, l'auteur de l'attentat du musée juif de Bruxelles, et Mohamed Bakali, qui lui est soupçonné d'être l'un des logisticiens des attentats de Paris. Ça paraît fou hein, que ces trois hommes puissent discuter quasi librement. Et c'est sans doute, et on comprend ça entre les lignes en lisant l'article du Parisien, une stratégie des enquêteurs, puisque ces conversations ont été interceptées par la sûreté de l'État belge, l'équivalent de notre renseignement intérieur en clair. Ces trois hommes étaient en prison, mais sur écoute. Dans un mélange de français et d'arabe, Abdeslam raconte notamment sa soirée du 13 novembre 2015. Comment, le soir des tueries parisiennes, il a fui vers Châtillon après avoir déposé 3 kamikazes au Stade de France et abandonné sa voiture dans le 18e arrondissement. Le ton, écrit le Parisien, est extrêmement léger. Franchement, d'ailleurs, quand on lit ça, on dirait une discussion entre gamins qui font les petits malins. Sauf que derrière tout ça, il y a des morts. 131 morts, il faut le rappeler. Plus de 450 blessés. Mohamed Bakali demande alors à Abdeslam, mais t'avais jeté le truc, comprenait la ceinture d'explosifs. Bah oui, évidemment, t'es ouf ou quoi, dit Abdeslam en riant. Il explique s'être aperçu que son arsenal était devenu trop voyant en demandant un renseignement à un passant dans la rue. L'homme l'avait regardé de la tête aux pieds, il avait fixé sa veste. Bref, il s'était rendu compte qu'il y avait quelque chose de bizarre. J'avais de grosses fesses, dit Abdeslam, on aurait dit que je faisais 90 kilos. Je savais que je devais m'en débarrasser. Sur un ton toujours aussi léger, le djihadiste raconte ensuite la suite de sa soirée dans une cage d'escalier, dans un immeuble de Montrouge, dans les Hauts-de-Seine. « Je me suis caché, dit-il, dans un bâtiment des HLM près du McDo, tu vois. Et tu n'as rien de manger ?» lui demande alors Mohamed Bakali. « Si, je suis parti au McDo, j'ai pris un menu fiche au drive. » Une fois encore, les co-détenus rigolent. Je vous avais prévenu, c'est terrifiant. Au même moment où presque, hein, rappelle le Parisien, les complices d'Abdeslam sont toujours au Bataclan. Le lendemain, à l'aube, Salah Abdeslam retrouve ceux qui sont chargés de l'emmener en Belgique. Il quitte la France en voiture, passe un à un les contrôles aux frontières. Il dit d'ailleurs avoir pris peur devant le déploiement des forces de l'ordre et raconte un épisode à peine croyable. Ça se passe au 3e barrage. Salah Abdeslam explique avoir été interviewé. Oui, interviewé par une équipe de télévision belge. Nous sommes toujours le 14 novembre. La journaliste lui demande s'il trouve ça normal qu'il y ait des barrages comme ça. Il répond, c'est en tout cas ce qu'il confie à ses co-détenus. Bah oui, c'est normal, vu les circonstances. Il faut bien renforcer les barrages. Là encore, c'est glaçant. Dernier élément, enfin, sur ses écoutes que publie le Parisien. Quand Abdeslam évoque son interpellation, il s'inquiète, écrit le journal, à l'idée qu'une lettre rédigée par ses soins puisse tomber entre les mains de la police. Le jour où ils m'ont attrapé, elle est tombée de ma poche. J'ai pas mis mon nom, mais tu crois que je dois me méfier, demande-t-il à Nemouche. Tu crois qu'ils peuvent savoir que c'est la mienne? L'auteur de l'attentat du musée juif de Bruxelles lui conseille alors de garder le silence. Dans cette lettre, Abdeslam dit avoir prêté allégeance à Daesh et s'être engagé par écrit à faire la guerre. Alors envisageait-il de commettre un attentat sur le sol belge? C'est la question que pose ce matin le Parisien. La lettre, en tout cas, n'a jamais été retrouvée. Ses confidences, elles, en revanche, ont bien été versées au dossier des attentats de Paris. Elles serviront sans doute d'éléments déterminants lors du procès.
La revue de presse d'RTL signée Amandine.